Bon ben, bonjour à tous. Je vais vous parler brièvement, en fait, ce matin, du volontariat à travers le vécu d'un mouvement d'éducation nouvelle et d'éducation populaire en France. Mon intervention n'a donc pas, comme vient de le rappeler Isabelle, la prétention de présenter une sorte de point de vue global ou très général, varié, mais seulement une histoire associative spécifique qui a été vécue pendant 80 ans par un nombre important de militants et d'éducation. Les CMEA ont été créés à l'origine en 1937 pour développer le volontariat de vacances et les centres de loisirs qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque. On ne parlait pas de volontariat, on ne parlait pas de centre de vacances et de loisirs. Ça s'appelait l'activité des moniteurs de colonies de vacances au moment du Front populaire, même si les colonies de vacances existaient depuis plus longtemps. Dans cette période du Front populaire, donc, où ces colonies de vacances se développent rapidement, Gisèle Defailly et André Lefebvre, qui sont les créateurs des CMEA, sont convaincus qu'il faut faire de ces colonies des lieux éducatifs, et pour cela qu'il faut former les moniteurs qui vont s'occuper des enfants durant ce temps. Alors, les colonies, comme leur nom l'indique, en fait, ont lieu sur un temps relativement court, les vacances scolaires, mais un temps qui est dense, qui est souvent dépaysant, puisqu'on part de chez soi, qui est propice à des découvertes et à des expériences de vie collective nouvelles que les enfants et les jeunes n'avaient pour la plupart pas l'habitude de vivre. Gisèle Defailly et André Lefebvre vont inventer, donc, pour la formation de ces animateurs, un outil spécifique, donc qui va correspondre en particulier au niveau du rythme à cette spécificité du temps de vacances. Et c'est ce qu'on a appelé le stage court, qui s'est répandu ensuite pour des tas d'autres activités. Le stage court, c'est un moment intense qui dure sur une semaine, qui est concentré donc sur une semaine, qui se passe en internat pour que les jeunes, ou les moins jeunes, mais c'est surtout des jeunes qui y participent, vont pouvoir être complètement concentrés sur l'activité pour laquelle ils se préparent, qui est une action éducative auprès d'enfants. Ces jeunes sont la plupart du temps des élèves instituteurs en formation, des élèves éducateurs, des jeunes travailleurs ou des étudiants. Et ces jeunes-là, en fait, ont souhaité s'engager sur leur temps de vacances dans une activité temporaire d'éducation. Leurs formateurs, en fait, sont aussi des militants d'un mouvement d'éducation nouvelle, qui ont leur profil est assez proche de celui, en fait, des personnes en formation, même si leur motivation, puisqu'ils sont militants déjà d'un mouvement, sont plus construites et plus solides. En fait, ce qui se mettait en place à travers ce dispositif était une sorte de contrat éducatif et social, symbolique, entre une société et une partie de sa jeunesse, en vue d'une action éducative au bénéfice d'un nombre très important d'enfants. Ce n'était pas une expérience ponctuelle et relativement resserrée, mais ça touchait un nombre très très important d'enfants. Par cette action, cette jeunesse vivait, et je pense que, j'espère, en tout cas qu'elle le vit toujours, un engagement citoyen au service de l'intérêt général, à travers une responsabilité très importante que lui confiait la société et qui manifestait par là sa confiance en elle, jeunesse. On était bien là, même si, comme je vous le disais tout à l'heure, ça ne s'appelait pas encore comme ça, au cœur de la philosophie du volontariat. C'est une bonne chose pour des enfants, mais aussi pour une société dans son ensemble, qu'un grand nombre de citoyens, et pas simplement des professionnels de l'éducation, et tout particulièrement des jeunes, se sentent investis dans des fonctions éducatives et se posent l'ensemble des questions qui sont liées à la question d'éducation. Il y a aussi dans cet investissement volontaire au service des enfants des autres, une dimension de solidarité qui est, qui était et qui est toujours à valoriser. Dans une période où les liens sociaux se délitent, où l'intérêt collectif passe souvent au second plan, il est très nécessaire de renforcer, de privilégier ces activités qui sont porteuses de valeurs et bien sûr aussi les acteurs qui s'y engagent. Ce mouvement d'engagement éducatif et social a eu un grand développement au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'à la fin de ce qu'on appelle en France, mais dans d'autres pays européens aussi, parce que ça s'est vécu un peu de la même façon, les 30 glorieuses, les 30 années après la guerre de reconstruction et de développement très fort des sociétés et des économies. Mais ensuite, il y a eu les premières crises économiques dans les années 1970-75 qui a forcément changé particulièrement les choses et modifié un bon nombre de paramètres. C'est à partir de cette période qu'on a vu monter une montée importante du chômage et l'accroissement des difficultés d'insertion sociale et professionnelle de beaucoup de jeunes. C'est en lien avec ça que les gouvernants, en France en tout cas, peut-être dans d'autres pays, on pourra en parler, ont été tentés de transformer, en fait, de faire évoluer cet engagement volontaire dont je parlais, en sorte de tremplin vers l'emploi, ou même, parfois, en emploi salarié précaire. Et en France, ça s'est traduit par l'émergence de la nouvelle convention collective de l'animation, donc dans le cadre du droit du travail, et en particulier de son annexe 2, qui traitait de la question des animateurs volontaires dans les centres de vacances et de loisirs. Et un peu plus tard, dans l'histoire administrative de la France, par la création d'un contrat d'engagement éducatif, ce qu'on appelait le CEE, c'est pas la Commission économique européenne, qui était une sorte, en fait, de dérogation au salariat. Aujourd'hui, ça a pour conséquence de créer, en fait, une large zone grise et poreuse entre ce que l'on connaît comme étant un vrai volontariat et le salariat. Dans lequel, d'ailleurs, cette zone grise, là, la déréglementation du droit du travail est largement à l'œuvre, ce qui fragilise, d'une part, bien sûr, le salariat lui-même et ses règles, mais qui déqualifie aussi une partie des emplois du champ professionnel de l'animation et qui marginalise les formations professionnelles de ce champ d'activité-là même. Le ministère de la Jeunesse et des Sports le sait bien à travers les difficultés qu'il a pour ses formations professionnelles. Cela permet à certains employeurs d'utiliser, en fait, cette zone grise, toujours, un pseudo-volontariat sur des tâches et des logiques d'emploi qui devraient être réservées, en fait, à des salariés. S'il y a de la part de nos décideurs, en particulier de nos gouvernants, une réelle volonté d'insertion professionnelle pour les jeunes, une vraie formation professionnelle accessible, ce qui est d'abord pas cher, des stages en entreprise de qualité, des dispositifs respectueux des personnes et de leurs projets, une formation continue ambitieuse serait plus cohérent et efficace qu'une expérience de volontariat, si bénéfique soit-elle. Entretenir cette zone grise, accepter ces dévoiements, risque de vider de son sens l'engagement volontaire aux yeux des volontaires eux-mêmes, aux yeux des personnes qui pourraient s'y intéresser, et est souvent contradictoire avec les objectifs de renforcement de la citoyenneté et du faire société que disent rechercher nos gouvernements. Les CMA, comme un certain nombre d'associations et de mouvements du secteur de l'éducation populaire et de l'éducation non formelle, ont tenté et tentent toujours encore aujourd'hui de résister à cette tendance. Nous défendons toujours aujourd'hui la spécificité de cet engagement éducatif volontaire qui, s'il n'est pas dévoyé, peut jouer un rôle de véritable rite de passage, comme disent les ethnologues, hein, entre la période de l'adolescence et la période adulte. Dans cette période post-30 glorieuse et jusqu'à aujourd'hui, on a aussi assisté à un élargissement très important du volontariat vers des champs et des publics beaucoup plus larges. On commençait par les jeunes volontaires, le volontariat européen, les volontariats du progrès à une époque, je ne sais pas si ça existe encore, je crois que ça n'existe plus, hein, les volontariats humanitaires qui existent toujours, le volontariat de solidarité internationale, bien sûr, et le volontariat de service civique, actuellement, etc. Et sans doute d'autres volontariats que je ne cite pas là. Alors, les CMA se sont engagés dans un certain nombre de ces volontariats avec la volonté, comme je viens de le dire, de conserver les valeurs et le sens de l'engagement citoyen. Les enjeux pour la société sont, vous en êtes bien conscients, c'est sans doute ce que vous défendez tous les jours, sont très importants, et c'est à travers des projets de ce type qu'une partie du lien social, du maillage entre les personnes, entre des personnes de milieux et de cultures différentes, peut se construire et s'entretenir autour de l'intérêt général et du faire société. Ces activités de volontariat, selon leur type, peuvent permettre aux personnes concernées d'acquérir d'assez nombreuses compétences, hein, à travers des savoirs, à travers des savoir-faire, des savoir-être, des compétences relationnelles et comportementales, comme la confiance en soi, l'estime de soi, l'ouverture aux autres, des capacités d'écoute et de dialogue, des apprentissages entre pairs, la compréhension des dynamiques de groupe, des compétences interculturelles aussi, comme l'intérêt pour d'autres cultures, des capacités d'adaptation à des environnements, à des rythmes, à des modes de vie différents, la relativisation aussi de son propre mode de vie et de ses propres rythmes de vie, des compétences organisationnelles aussi, comme la prise de responsabilité, l'esprit d'initiative et d'innovation, des qualités de rigueur que l'on acquiert aussi à travers les activités de volontariat, en tout cas certaines, des compétences liées aussi, bien sûr, à la mobilité dans beaucoup de volontariats, hein, l'adaptabilité, la capacité de gestion des imprévus, puis l'intérêt pour les voyages, pour les autres pays, pour les autres cultures. Ces compétences-là, pour la plupart, ne s'enseignent pas. Elles s'apprennent par l'action, par l'expérience, par le vécu de situations particulières. Alors, l'ensemble de ces compétences joue un rôle non négligeable pour l'insertion sociale, pour l'estime de soi, la conscience citoyenne des volontaires, comme pour la qualité des services rendus aux populations concernées par les activités que ces volontaires mettent en œuvre. Mais un des enjeux posés aujourd'hui est de trouver les façons de valoriser toutes ces compétences. Il y a plusieurs types de valorisation. Il y a des valorisations de la personne vis-à-vis d'elle-même et de son environnement relationnel et social, une valorisation vis-à-vis de la citoyenneté et du rôle dans la société, une valorisation aussi académique hein, vis-à-vis des titres et des diplômes, une valorisation vis-à-vis de l'employabilité, hein. Et j'en oublie sans doute d'autres hein, qui sont possibles. Quand on analyse en fait ces savoir-être, hein, ces savoir-faire, il paraît bien évident que ce sont des éléments plutôt positifs, même très positifs, pour l'ensemble de toutes ces valorisations concernées. Mais pour beaucoup d'États, pour l'Europe et leur système de validation, les deux derniers que j'ai cités, en particulier la valorisation académique vis-à-vis des titres et diplômes et la valorisation vis-à-vis de l'emploi et des métiers, hein, sont plus faciles à prendre en compte car ils correspondent mieux à un mode de pensée et d'action un peu bureaucratique hein, qui se décline plus facilement en procédures individuelles, normatives et standardisées. Et à contrario, des valeurs et des idéaux, des modes de fonctionnement, des engagements volontaires qui, eux, mettent plutôt en œuvre la créativité et l'innovation, l'hétérogénéité, la spontanéité, l'esprit critique et l'action collective, ce qui est toujours plus difficile à mettre en norme et en standardisation. Il faut donc travailler pour arriver à mieux valoriser les savoir-être et les compétences sociales qui sont au cœur des volontariats et de l'éducation non formelle. Aujourd'hui, les cadres de référence des validations sont principalement les métiers et les qualifications. Il faut en construire d'autres qui prennent mieux en compte les engagements sociaux, comme par exemple les responsabilités d'élus, de responsables ou de militants associatifs. Je crois que cela est en cours dans les travaux sur les cadres de référence européens et dans les déclinaisons au niveau des États qui doivent suivre. Mais vous en connaissez sans doute plus que moi là-dessus. Et quand on voit les travaux qui ont été faits durant ce projet de 2 ans, on voit bien la richesse et l'importance que ce genre d'activité a pour faire évoluer en fait les validations et la valorisation du volontariat. Donc réussir cela permettrait que les associations n'éprouvent plus un sentiment parfois un peu gênant d'instrumentalisation pour des objectifs qui ne sont pas au cœur de leur action et qui peuvent les fragiliser et les détourner du rôle original qu'elles ont au sein d'une démocratie vivante. Je vous remercie de votre attention.